Nous sommes très heureux de vous retrouver sur La Nouvelle Génération. Bonjour, merci de nous choisir. Nous sommes jeudi, alors lundi 16 septembre 2024. Il sont 11h sur votre radio. Vous comprenez sans doute que c'est l'émission Club de la Presse qui démarre ainsi. Nous sommes au premier numéro alors pour l'émission, pour le compte surtout alors de cette semaine. Bienvenue au club. Pour la coordination de l'émission de ce jour, Michel Coco, Victor Bintomida est à la mise en œuvre. Jérôme Dakouta assure la mise en ligne. Je suis Pascal Losso au micro. Merci à vous tous qui nous suivez partout au Togo grâce à nos radios partenaires. Radio Lumière à Nekro, Radio La Paix à Takwame, Centrale FM à Sokodo, Sky FM à Badou, Radio Daoul à Bassa, Sama FM à Niamtougou et puis Radio Courtoisie à Dapan. Merci également à vous tous qui nous suivez partout dans le monde grâce à nos différentes plateformes digitales, à savoir notre chaîne YouTube qui a commencé ce matin avec les images, bien sûr, puisqu'entre-temps vous aurez fait le constat, les images étaient totalement interrompues. Vous écoutez que l'émission en son ou en élément sonore, et aussi il y a nos plateformes digitales également qui relaient l'émission de ce jour, bien sûr. À savoir d'abord la radio Ibn Radio, bien sûr, et aussi Radio Mobené, qui sont nos radios partenaires en ligne. Club de la Presse, vous le savez très bien, c'est le décryptage, l'analyse et le débat sur l'actualité de notre pays. Et d'ailleurs, et c'est avec mon confrère journaliste en studio, avec moi, Gosson Kitomani. Bonjour.
Bonjour, Pascal. À tous les auditeurs, auditrices et surtout fidèle lecteur de Liberté, nous adressons nos sincères salutations.
J'espère que tu vas bien.
Bon, pour un citoyen togolais, en ce premier jour de rentrée scolaire, dire qu'il va bien serait se mentir.
Quoi, il y a une particularité.
Personnellement, c'est
citoyen togolais.
Ma fille qui a eu ses 15 ans, et au lycée, c'est la première fois qu'une telle rentrée me tombe sur la tête. Jamais je n'en ai rêvé. C'est dit que même si nous ne tambourinons pas, il faut reconnaître que, conformément à ce que disent les citoyens, c'est de plus en plus difficile. C'est de plus en plus dur, mais Dieu faisant, on fait tout pour résister.
C'est l'essentiel. Faisons vraiment tout pour résister. Et nous devons même d'ailleurs cultiver cette résilience devant les difficultés de la vie. Les difficultés avec la vie, c'est vrai, on a toujours les problèmes, mais il semble que quand on surpasse, on surmonte même d'ailleurs ces problèmes, c'est en ce moment que nous sommes plus hommes. Irel, bonjour.
Bonjour Pascal, bonjour Didier, bonjour Godson. Bonjour et félicitations à ta fille qui entre au lycée. Bonjour aux enfants de Didier qui ont repris les classes. Bonjour à mes enfants également. Et je souhaite une très bonne rentrée à tous les enseignants, surtout ceux qui enseignent la langue française. J'ai fait avec beaucoup les lettres modernes à l'université. Tous mes collègues enseignants au lycée, au collège, je leur souhaite une très bonne rentrée. Et comme nous avons choisi cette langue comme notre langue professionnels, conventionnels, qu'ils enseignent aux enfants de bien la parler, de ne pas dire prochainement je la donne, mais dire je lui donne, etc. Donc, bonne rentrée à tous.
D'accord, merci beaucoup. Didier Soba, bonjour.
Bonjour Pascal, bonjour aux auditrices, auditeurs de Canal FM, bonjour à mes aînés, bonjour au président et à sa fille surtout, qui entre au lycée, surtout avec son anniversaire. Donc, je salue également Uriel et son patron à la maison qui adore les ananas. On va pouvoir en ramener, évidemment. Donc, je salue aussi...
Bien sûr, tu es de la maison aussi. Mmh. Puis, finalement, tu maîtrises bien ce que le patron aime.
Ah, mais bon... Mon collègue, qui est le chef de la maison, m'a donné les bonnes informations. Surtout. Donc, je profite de l'occasion aussi pour saluer ma fille, l'aînée, qui aussi a soufflé une bougie de plus hier, et donc qui rentre au collège aujourd'hui. Donc, voilà, vous comprenez que, en tant que parent, on a dû suivre. L'effectivité de la rentrée à tous les niveaux avant d'être à nos postes ce matin. Donc voilà, bonne rentrée à tous les enfants à travers le Togo et en dehors, et que le Seigneur veille sur chacun d'eux.
D'accord.
Mais Pascal, il y a quelque chose d'un peu miraculeux quand même.
Miraculeux, tu dis?
Oui, que les trois individus autour de ce plateau aient des enfants qui sont nés en septembre. Ça, c'est un miracle quand même. Il faudrait que ces enfants-là se croisent pour fêter ensemble.
Ah bon?
Oui.
D'accord. Alors, on va évoquer la rentrée scolaire, et, puisque pour commencer même d'ailleurs cette émission, puisqu'on ne peut même pas faire cette émission sans parler de cette rentrée, puisque c'est l'actualité. Gosson, nos enfants ont repris les classes alors ce matin, et aujourd'hui c'est le 16 septembre, et cela a été annoncé même d'ailleurs depuis le 9 septembre dernier, c'était la rentrée pédagogique, et cette fois-ci, c'est-à-dire ce lundi le 16, c'est la rentrée académique. Et les enfants sont là. J'ai eu quand même le temps nécessaire alors de parcourir certains établissements scolaires ce matin avant de venir à la radio. Et j'ai compris quand même que la rentrée, pour ce qui est, ce que j'ai vu, la rentrée est effective. Et les enfants sont là, ou justement les élèves sont là. Et il y a une effectivité alors de la rentrée. Alors, Gosson, on ne peut que féliciter même d'ailleurs tous les acteurs pour cela.
Bon. En quoi doit-on féliciter les autorités?
Non, je ne parle pas forcément des autorités, bon, mais je parle de tous les acteurs.
Quand vous parlez de tous les acteurs, autorités comprises.
D'accord.
Mais moi, c'est personnellement à l'endroit de... C'est personnellement aux parents que je voudrais m'adresser. Et quelqu'un avait l'habitude de me dire que sitôt les vacances entamées, commence les soucis pour les parents, parce qu'on pense déjà à la rentrée à venir. Et comme je l'ai déjà dit, ça m'est arrivé de faire cette amère expérience. Ce week-end-ci, je visionnais une vidéo, je pensais que la rentrée, c'était le samedi ou le vendredi, quand j'ai vu le ministre de l'Éducation tenir une banderole pour le maire de Palimé. Je pensais que c'était l'inauguration d'une salle de classe, mais je me rends compte que c'est juste pour des feux tricolores que notre ministre a tenu la banderole au maire. Je lui ai dit, est-ce là le rôle? Mais voilà que le week-end, bon, juste après ce week-end, la rentrée, la vraie, a commencé. J'ose croire que je verrai une de ces vidéos aussi, cette fois-ci, dans un des établissements scolaires du pays.
D'accord. Oui, c'est vrai qu'il y a des journaux qui sont revenus sur la rentrée ce matin. Il y a, par exemple, le Togo, journal Togo Matin, qui écrit « Gouvernement rentrée scolaire 2024-2025, moderniser en profondeur l'enseignement au Togo ». Alors, aujourd'hui, comme je le disais peut-être hors micro, il y a des défis à relever aujourd'hui dans la modernisation même d'ailleurs de l'enseignement au Togo.
Alors, quand on parle de l'enseignement dans tout pays, il y a des choses fondamentales à considérer. C'est d'abord les locaux. Si vous avez des salles de classe conformes aux normes pour abriter élèves et enseignants, je pense que c'est la première condition qui soit réunie. Maintenant, il faut que les enseignants, puisque vous parlez bien des défis, les défis qui s'imposent à nos pays sous-développés, c'est d'abord les locaux, la qualité ou la qualification de l'enseignant, c'est aussi les dispositions prises pour mettre à l'aise l'apprenant qui intègre l'école. Vous savez qu'au Togo, aujourd'hui, vous allez entendre partout prononcer la gratuité de l'école, l'école primaire, ou bien ça s'arrête à l'école primaire, si je ne me trompe pas.
Oui, la gratuité.
D'ailleurs, même, c'est un abus de langage. C'est un abus de langage. Là aussi, le défi reste à relever parce que quand on parle de la gratuité de l'école, ça veut dire que le temps prend en charge et le matériel didactique et le collage et la tenue de l'enfant et son alimentation, sa santé et tout. C'est ça qu'on appelle la gratuité de l'école. Donc, quand on parle de gratuité aujourd'hui, c'est un peu l'abus de langage. Donc, on peut parler de la suppression des frais d'inscription, on peut parler de ceci ou cela, mais parler de
partielle gratuité.
Non, là encore, c'est un autre abus. Et on n'est pas encore là-bas. Il faut quand même, nous sommes sur les antennes, il faut qu'on arrive à expliquer les choses comme ça, c'est droit. Tu sais, ce que l'État fait, c'est déjà bon et à encourager. Nous encourageons les autorités à aller de l'avant pour relever davantage les défis. Donc, si on a supprimé les frais d'inscription ou ce qu'on appelle écolage, on peut aller au-delà, offrir gratuitement les soins de santé aux élèves. Je pense que c'est dans ce cadre que Schoolassure a été créé. Mais comme aujourd'hui, ce projet ne couvre pas encore tous les apprenants, on encourage l'État à améliorer pour que tous les élèves puissent bénéficier de cette offre. Parce que la santé, ça n'a pas de prix. Quand un élève tombe malade, ça devient un autre problème. Des fois, nos enfants font toute une semaine à la maison. Pas parce qu'on a voulu, mais parce que les parents n'ont pas encore les moyens pour prendre soin d'eux. À la rentrée comme ça, en réalité, on doit vérifier l'état de santé de nos enfants avant qu'ils ne commencent. Est-ce que nous avons ces moyens? Maintenant, si l'État prenait tout ça en charge, je peux comprendre l'expression « gratuité » de l'école. Donc, tout ça, ce sont des défis. Ce sont des défis à relever. Mais au niveau de la qualité ou la qualification des enseignants, je pense qu'un effort très énorme a été fourni en ce sens qu'aujourd'hui, après un concours d'enseignement, on n'affecte pas immédiatement les enseignants. Ils entrent dans des écoles de formation avant d'être affectés pour leurs prestations. Je pense quand même qu'il faut saluer cette initiative. Je ne sais pas qui en est l'auteur, mais quand même, bon, l'État demeure l'État. Il faut saluer cela. On a l'ENES d'Atapami qui s'est transformé en une autre école. On a les élus partout. Donc, les enseignants sont du coup formés avant d'être affectés pour transmettre les connaissances aux apprenants. Ça, c'est déjà des efforts. Bon, ce qui reste, on sait quand même comment les classes dans les écoles abritent beaucoup d'élèves. Des fois, vous trouvez plus de 100 par classe. Vous convenez avec moi que même si l'enseignant est un magicien, il ne pourra pas transmettre les connaissances comme cela se doit. Par exemple, moi, je me rappelle, en seconde au lycée de Pagoda, nous étions 36, des classes de la A4, 36.
En terminale?
En seconde. 36 avec le proviseur d'Ero. Donc, mes promotionnaires peuvent appeler pour témoigner. Mais je me rappelle même, en 2005, à l'Université des Caras, en lettres modernes, nous étions 38 en première année. Donc ça, c'était des avantages. Si on pouvait, mais avec le temps, les enfants fréquentent, les enfants sont plus intelligents que nous, et bon, les défis s'imposent à l'État. Donc si on pouvait multiplier les écoles, recruter davantage les enseignants, les former et les affecter, je pense que ces défis-là, le Togo, en matière d'évaluation, un jour, on risque, bon, on a la chance, pas on risque, on aurait la chance un jour d'être premier dans la sous-région en matière d'éducation, en matière d'apprentissage, en matière d'enseignement.
D'accord. Voilà. Et si nous jetons un regard dans le passé, c'est-à-dire ces dernières années, est-ce qu'on n'a pas l'impression que l'État est en train de faire, même d'ailleurs, ou de relever un certain nombre de défis, parce qu'en matière d'enseignement ou en matière d'éducation au Togo, est-ce qu'il n'y a pas vraiment des efforts qui sont faits?
Il y a d'énormes avancées pour ceux qui ont fait l'école publique, l'école de la République. Comme le dit souvent le ministre Cocoloco, ceux qui ont eu la chance de faire l'école de la République peuvent aujourd'hui témoigner des évolutions qu'il y a eu. Moi, je me souviens de CP1 jusqu'au CE2, je l'ai fait sous des arbres, à l'EPP couvert Boli. Donc, j'ai fait du CP1 jusqu'au CE2-là, je l'ai fait sous des arbres, même pas des apatames, attention, sous des arbres.
Donc, avec un simple tableau, ça fait l'affaire, c'est ça?
Oui, on met un tableau donc, est soutenu justement par l'arbre en question, et bien vous êtes sous l'arbre, et vous suivez le cours. Et donc, on a vu l'école, c'est la transformation qu'il y a ces dernières années. C'est vrai qu'on peut encore retrouver de telles réalités dans certaines localités, mais c'est moins par rapport à il y a 10 ans, à il y a 15 ans, à il y a 5 ans. Il y a des efforts qui se font, et Uriel a souligné tout à l'heure le travail de qualité qui se faisait et qui se fait au niveau de la formation des enseignants. Et aujourd'hui, on a moins de... les statistiques le prouvent, on a moins d'enseignants volontaires d'ailleurs. Dans le système aujourd'hui, il paraît que ça fait 7% de l'effectif global d'enseignants volontaires. Mais pour la plupart, ben, moi j'ai été formé, enfin, mon maître de CM2 était un enseignant volontaire. Il était à 10 000 francs le mois. Et donc, on a vu des choses qui infectaient, si vous voulez, le système éducatif togolais de par le passé, qui progressivement sont en train de disparaître. Et ça, c'est des efforts qui ont été faits. On a vu quelques écoles qui sont clôturées ces dernières années. Il y a eu des bâtiments qui ont été construits dans certaines écoles, donc servant naturellement de salles de classe. Et c'est des efforts qui continuent d'être faits. Et si on maintient la dynamique comme ça, moi, je ne dirais pas comme les pouvoirs publics, 2025 ou 2000 quelques, mais je dirais peut-être que d'ici 15 ans, on pourra naturellement parler moins de manque de salles de classe et parler moins de manque de tables basses dans les écoles. Si on maintient la dynamique d'investissement, de construction de salles de classe, de clôture des établissements même et de fourniture de tables bancs, je dis que d'ici 15 ans, on aura moins à parler de manque de tables bancs, de manque de salles de classe et tout, et on sera peut-être focalisé sur d'autres défis du système éducatif. Donc, c'est des efforts qui ont été faits. Naturellement, en tant que citoyen, on en voudra plus, et Gosson ne me démentira pas. Gosson dira que c'est de la responsabilité de l'État d'assurer la même accessibilité de l'école aux citoyens un peu partout sur le territoire. Si des efforts se font au niveau des infrastructures d'accueil et de formation, on va également souligner des défis qui restent, notamment en matière d'accessibilité. Dans des localités, il y a encore des difficultés pour quitter un point A vers un point B où se trouvent naturellement les écoles. Et on va avoir encore dans des zones de Nortière, de Yotokopé, des localités encore compliquées. Il y en citera d'autres dans la partie nord du pays, où des élèves ou des enfants ont des difficultés pour traverser des rivières, pour rejoindre leurs écoles. Et en période de crue, ça devient plus compliqué. Donc, espérons que les autorités maintiennent la dynamique, autant dans la construction des infrastructures scolaires et l'amélioration de la formation des formateurs et tout ce qu'il y a, mais également à ce que l'action gouvernementale puisse permettre à ce que l'école soit accessible à tout le monde et à moindre frais.
D'accord. Et, est-ce que vous avez aussi l'impression que l'école de la République est en marche?
Je ne dirais pas non, mais je suggère qu'on ait le courage ou la victoire modeste. Parce que je pensais qu'à la fin de 2025, on ferait le bilan pour nous dire qu'effectivement les 30 000 classes promises seront ou alors auront été construites. Mais si en 2024, on n'en a pas atteint 10 000, même 8 000, je doute.
On est autour de 6 000.
6 000, justement.
En temps réel, autour de 6 000 salles de classe.
C'est pour dire, personne ne poussait l'autorité à faire des promesses démagogiques.
Le peuple n'en a pas juste pas une ambition, et il faut aller vers cette ambition?
Avant d'ambitionner quelque chose, il faut avoir les moyens de sa politique. Qui les a poussés à donner ce chiffre? Parce que moi, aujourd'hui, si on doit évaluer l'État, c'est par rapport à ce qu'il a dit. Ce n'est pas moi qui lui ai demandé de donner ce chiffre. Donc, il serait bon que dans deux secteurs, quand on veut se lancer dans des projets, que ce soit des projets qui requièrent l'adhésion. Déjà, quand on avait annoncé ce chiffre, nous, on s'était posé des questions. Mais bon, chaque fois, on dira que c'est nous qui sommes les oiseaux de mauvaise augure. Déjà, à quelques mois de l'heure du bilan, chacun constate qu'on pouvait donner un chiffre plus raisonnable, quitte à le dépasser et là, s'en enorgueillir. Voilà, parce que, bon, des progrès, on en fait. Je ne vais pas fermer les yeux, mais comme l'a dit Didier, il y a des coins du Togo dont les infrastructures te rebuteraient. Quand on te dira que ça, c'est une salle de classe dans laquelle il y a des élèves qui viennent prendre des cours, tu diras que non. Est-ce que c'est aussi le Togo? Donc, s'il y a un appel à lancer aux hôteliers, c'est que on disparaisse un peu du paysage de la capitale et qu'on rentre dans le Togo profond parce que il n'y a pas que les citoyens les urbains qui vivent, il y a les rues. Et tant qu'on ne fera pas tout pour qu'il y ait équilibre, quelque part, il y a toujours des glissements dedans.
Donc, vous pensez qu'il y a des déséquilibres entre les ruraux et les citadins?
Clairement.
D'accord. Alors, oui, mais Uriel, c'est vrai que ces derniers temps, dans l'enseignement, il y a eu beaucoup de réformes, et même d'ailleurs dans les unités d'enseignement, même d'ailleurs, il y a cette méthode qui est maintenant en vogue, je veux bien parler de l'APC, l'approche par compétences. Et aujourd'hui, est-ce que vous avez aussi l'impression que même avec l'APC, déjà, la connaissance est transmise, même comme cela se doit?
Bien, on ne peut pas aujourd'hui, du coup, dire qu'on a déjà atteint les objectifs liés à cette nouvelle approche. Non, je ne crois pas parce qu'il faudra du temps. La preuve, c'est que vous avez constaté les résultats de cette année. Quelles que soient les raisons évoquées par-ci, par-là, qu'on dise que ce sont des promotions issues de la COVID-19, ils n'ont pas bien reçu les cours en 2020-2021. Je pense quand même que lorsqu'on a une initiative, il faut un peu de temps avant de l'évaluer. Bon, aujourd'hui, je pense qu'on va patienter un peu par rapport à cette nouvelle approche et avec le temps, on pourra mieux évaluer. Moi, je voudrais revenir justement sur ce déséquilibre au niveau du bénéfice en termes d'infrastructure, en termes d'enseignants. Là, c'est le problème actuel, en réalité. Ce qu'évoque Godson, c'est le problème actuel. Il y a un déséquilibre. Il n'y a pas que le problème des classes scolaires ne se pose pas partout. Hein. Ça ne se pose ailleurs, il y a les classes, mais les élèves n'y vont pas et il n'y a pas d'enseignants. On peut donner des exemples, hein. Quand vous allez, par exemple, à Boufalé dans la Bina, il y a le lycée, le collège et le cours primaire qui se retrouvent en un même endroit. C'est une bonne chose parce que l'État dit qu'il faut le faire pour que les mêmes enseignants du collège puissent intervenir au lycée. Il y a tout. Il y a les classes qui ne sont même pas utilisées, exploitées. Donc, ça veut dire que là-bas, il n'y a pas de problème de classe. Mais il n'y a pas d'enseignants. Il n'y a pas d'enseignants. Donc, les élèves, depuis la création de ces structures-là, ce n'est pas une forme de dénonciation. Nous sommes en train de faire nos analyses et c'est tout à fait correct. Les élèves évoluent là-bas par tâtonnement. De la sixième en troisième, il y a des génies. Moi, j'ai mon neveu direct qui a réussi à 20,15 au BPC l'année dernière. Il est au lycée scientifique. Les élèves évoluent par tâtonnement. Ils n'ont pas d'enseignants. Des fois, on affecte même des enseignants volontaires. Je me rappelle l'année passée, il y a une dame qu'on affectait là-bas. Quand elle a découvert que c'est le milieu, elle n'est pas allée. Elle a démissionné, elle n'est pas allée.
Aujourd'hui, si vous voulez évaluer un peu, au lycée là même,
c'est à peine 3 enseignants de l'État. C'est à peine 3 enseignants. Donc comment voulez-vous que vos enfants aient la transmission de la connaissance requise pour être un bon citoyen de demain? Il y aura des lacunes dans quelque chose. Là, il n'y a pas problème de classe, je le répète, mais c'est problème d'enseignants. Mais à côté, tu vas retrouver des enseignants. Il y a des lycées qui entourent, il y a des collèges qui entourent, ils ont des enseignants, ils en ont même à tel enseigne que des gens sont sous-employés. Des gens, au lieu, je ne sais pas, ils ont dépassé 18 heures. Quand moi j'intervenais, c'était 18 heures, l'heure réglementaire pour enseigner. Maintenant, je ne sais pas si c'est 20 heures ou c'est 22 heures. Les gens n'ont que ça. Mais ailleurs, donc c'est ce déséquilibre, c'est un problème que le ministre Cocorico doit résoudre. Je ne sais pas s'il est informé. Ailleurs, je ne sais pas comment ça se passe, mais ce déséquilibre n'arrange pas parce que ceux-là conforment, ce sont des citoyens de demain. La dernière fois, je vous écoutais quand, pour une émission de mercredi avec nos confrères ici, quand un confrère avait dit que les élèves fréquentent pour le pays et un autre a contredit pour dire non. Non, les élèves fréquentent pour le pays. Nous avons tous fréquenté pour le pays. On n'a pas fréquenté ni pour nous-mêmes, ni pour nos familles, parce que nous sommes une composante de la nation. Ce que nous sommes en train de faire ici, c'est pour l'intérêt de la nation. Donc, nous fréquentons d'abord. Si nous ne fréquentions pas pour le pays, l'État n'allait pas affecter des enseignants, l'État n'allait pas construire des salles de classe, l'État n'allait pas faire ceci, ceci, cela, pour notre avantage, pour l'apprenant que nous étions et que nos enfants sont aujourd'hui. Nous fréquentons d'abord pour le pays. Donc, il faudrait quand même qu'on essaie de supprimer au maximum ce déséquilibre. Il n'est pas bon. Il n'est pas bon pour l'apprenant, il n'est pas bon pour ses parents, il n'est pas bon pour le pays. Parce que cet apprenant qui tâtonne, il réussit, il va finalement croiser ceux qui ont eu tous les enseignants et ils vont exercer le même métier. Et dans leur responsabilité, celui qui avait manqué d'enseignants, il va transmettre moins les connaissances et ça va répercuter sur des générations et des générations et ce n'est pas bon pour le pays. Ce déséquilibre, il n'a pas sa raison d'être. Il faut, s'il y a par exemple 10 enseignants, il y a 2 lycées, il faut essayer d'évaluer. Vous mettez 5 ici, vous mettez 5 là. Il n'y a pas une société supérieure à l'autre, à ce que je sache. On ne trouve pas, par exemple, 5 enseignants manquants au lycée de Couvée. Et qu'on va quelque part à Nikonako, on retrouve qu'il y a là-bas des surplus d'enseignants. C'est pas du tout normal. Si vraiment le ministre des enseignements primaires et secondaires, qui a les deux enseignements primaires et secondaires, maintenant je pense qu'on l'a vraiment déchargé de beaucoup, donc s'il peut faire ce travail, la nation lui serait reconnaissante. Vraiment, c'est un phénomène qui n'arrange personne, parce que l'État de poids assez de moyens pour organiser des concours, pour former les enseignants, mais pour les affecter, c'est un gros boulot, c'est un grand problème. Est-ce qu'il faut nécessairement, comme j'entends les gens dire, je dis non, c'est pas normal, même si le ministre Cocorico lui-même, il entend ça, il ne sera pas d'accord. Les gens disent, il faut avoir quelqu'un chez toi pour qu'il négocie avant qu'on amène les enseignants chez vous. Non, votre lycée, il est créé chez vous, par exemple. C'est un lycée, je donne un exemple. Mais il n'est pas créé pour votre local. N'importe quel enfant peut aller fréquenter là-bas. Si, par exemple, Pascal était affecté quelque part où il y a un lycée, ses enfants sont au lycée, tu es obligé d'aller avec tes enfants. Mais malheureusement, ils iront avec un manque clair d'enseignants. Et là, ils vont fréquenter par tâtonnement. Et après, c'est des problèmes. Vous voyez ça? D'accord. Donc, c'est un problème à résoudre.
Okay. Disons, oui, ce que nous reprochons tous ensemble d'abord à notre système éducatif, c'est que, c'est un système qui nous forme alors pour la théorie et que la pratique n'y est pas. C'est vrai, on a aussi l'enseignement technique qui est là et avec aussi ces résultats. Alors, mais pour ce qui concerne l'enseignement en général, on a du mal à comprendre que mais nous sommes formés et par après, nous nous posons la question de savoir qu'est-ce que nous savons faire.
Oui, et ça aussi, ça reste un défi que notre système doit relever. Vous savez, l'école togolaise, l'école de la République, est une école ou un système qui est directement issu de la colonisation. C'est-à-dire que
le colonisateur avait besoin des gens qui doivent travailler dans son administration ici. Et donc, pendant longtemps, on nous disait qu'il faut aller à l'école pour travailler pour l'État, pour être recruté dans la fonction publique. Et c'était très récemment qu'on a compris qu'on peut faire des études, qu'on peut aller à l'école et ne pas travailler pour l'État. Et ça, ça a pris du temps pour que les Togolais comprennent. Et même aujourd'hui, dans des contrées, les gens ne comprennent pas encore. Et donc, à partir de ce moment-là, il y avait moins de gênes, moins de soucis pour permettre aux gens d'avoir de la technicité, c'est-à-dire de l'expérience dans un certain nombre de matières, pour que, une fois sortis de l'école, ces gens-là puissent être à même de pouvoir appliquer ce qu'ils ont appris à l'école. Donc, des années, des décennies, on faisait des cours en sciences, en physique, en maths, si vous voulez, en technologie même. Ben, même on faisait ces cours-là sans matériel d'expérimentation. Il n'y a rien du tout, il n'y avait pas d'expérience. On vous disait, les fils phase quoi, aller-retour et tout ça en physique, on ne savait pas de quoi il s'agissait parce qu'on ne voyait même pas les fils, jusqu'à voir les piles, on dessinait les piles au tableau et tout ça. Aujourd'hui, je pense que c'est un défi qu'on doit relever. Et je pense d'ailleurs que une note du ministre Kokomoko a situé clairement le cap, qu'aujourd'hui, il faut permettre aux enfants de pouvoir mettre le nom sur le visage de ce qu'on leur enseigne et qu'il y a aujourd'hui des moyens de pouvoir expérimenter ou de faire des expériences dans un certain nombre de cours, notamment en sciences, physique, maths, si vous voulez, SVT ou biologie, pour que les enfants soient à même de comprendre d'abord le cours, de mettre un nom sur le visage une fois sorti des classes et après d'être à mesure de pouvoir appliquer ce qu'on leur a appris à l'école. Et donc, à partir de ce moment-là, je pense qu'on doit également maintenir le cap de ce que cette ambition-là ne soit pas juste un vœu pieux, mais qu'on mette les moyens à la disposition des écoles. Aujourd'hui, on parle de périmètre pédagogique en matière d'expérimentation au niveau des cours, mais on peut, dans les années à venir, évoluer de telle façon à ce que chacune des écoles publiques, notamment à partir déjà de... Même pas, il ne faut pas attendre le collège, même à partir déjà du primaire, un certain nombre de classes, le CE et le CM, on puisse permettre aux enfants d'expérimenter un certain nombre de choses déjà pour que l'enfant togolais de demain soit un enfant qui n'est pas seulement théorique, qui n'est pas seulement littéraire ou scientifique dans le papier, mais soit scientifique déjà avec ses mains une fois. Dans la pratique et dans la vie active, on pourra naturellement en bénéficier et profiter.
Mais moi, sur ce point, moi, je me demande comment les anglophones sont arrivés à y arriver. Enfin, sont arrivés, pardon, à mesurer ce défi, j'allais dire, parce que nous sommes passés quand même par le même cursus alors de décolonisation.
Oui, mais le système anglophone n'est pas un système francophone. Vous savez, le système anglophone aujourd'hui, au lieu qu'on te demande ton diplôme, on te demande d'abord quelle est ta compétence, ce que tu sais faire. Les anglophones, dès le départ, misaient sur la compétence des uns et des autres. Et c'est pour ça que l'expérimentation et les écoles techniques, les écoles, les universités techniques ou les écoles, vous voulez, les lycées techniques, sont beaucoup plus de l'apanage des anglophones. C'est-à-dire de donner les moyens à l'apprenant d'être opérationnel tout de suite. Et c'est de même qu'est venu le système de BTS et tout ça. C'était de donner le moyen aux formés d'avoir les coudées, d'avoir la pratique, d'avoir la possibilité d'être opérationnel tout de suite et d'être rentable ou, si vous voulez, d'être productif à la tâche. Mais le francophone, ce qu'on va te demander d'abord aujourd'hui, c'est le diplôme. On va te demander d'abord le diplôme. Et donc, pour la quête du diplôme, on a moins de compétences, on court après le papier, on a le papier, après on se rend compte qu'on n'a pas de compétences. Mais l'anglophone, il cherche d'abord les compétences, quitte à chercher le diplôme après.
Et donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, vous allez au Ghana ici, vous commencez à Plaou ici tout à l'heure, vous allez voir école technique, quoi, et c'est de l'État. École technique, quoi, et c'est dédié à un domaine. École technique, quoi, agriculture, école technique, aquaculture. C'est vrai que cette fois, dernièrement, nous aussi, on a commencé à avoir des IFAD qui nous permettent donc de former des gens au lycée et pour avoir le diplôme de bac, mais d'être opérationnel dans aquaculture, dans le bâtiment, dans autre chose. Dieu merci qu'on ait pu se réveiller et qu'on ait emprunté ce chemin. C'est pour ça que les anglophones nous dépassent sur un certain nombre de sujets. Aujourd'hui, il faut qu'on sorte des formations purement littéraires et qu'on puisse mettre, comme je le disais, les moyens à disposition des élèves, des apprenants, pour que déjà à l'issue du cours primaire et déjà à l'issue du collège, les gens puissent découvrir leur vocation. Si ma vocation, c'est l'électricien demain, que je puisse déjà au niveau du lycée, commence par avoir des formations dans les IFAD en électricité. Si je dois devenir maçon demain, que je puisse avoir des compétences en bâtiment, IFAD bâtiment ici, je pense que ça pourrait permettre à notre système d'être un système qui forme des gens et qu'on dira des gens qu'on forme pour le chômage.
D'accord. Alors, nous allons continuer ce débat, mais toujours dans l'enseignement, mais nous allons parler cette fois-ci alors du supérieur. Et je suis tombé tout récemment alors sur une note alors du Conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur. Et cette note est intitulée « Note sur les motifs d'ajournement de M. Lamadoku Kosik-Bignon, candidat à la 46e session des comités consultatifs inter-africains CCI du CAMES, CTS Lettres Sciences Humaines. » Alors, dans cette note, on note tout simplement, ou bien on remarque tout simplement que la première partie de la note, on dit « Dans le cadre alors de la 46e session des comités consultatifs inter-africains CCI du CAMES, M. Lamadoku Kosik-Bignon, de nationalité togolaise, a présenté un dossier en vue alors de son inscription sur la liste d'aptitudes aux fonctions de maître assistant du CAMES, bien sûr. Et au terme alors du processus d'évaluation intervenu du 26 juin au 10 juillet 2024, le candidat a été ajourné au motif suivant. Alors, il y a deux motifs. Et le premier motif, c'est réserve sur la qualification académique du candidat. Et deuxième motif, soupçon de fraude sur un des articles. Et il est noté à la fin que, après vérification, il a été constaté que cet article ne figurant alors non seulement pas dans le numéro tel que proposé alors par l'auteur. Ceci peut être également, on l'a dit, lecture du fichier fourni par le candidat, notamment la préface introductive, les articles du volume sont présentés, sauf celui alors du candidat qui visiblement n'y a jamais été alors publié. Alors, je ne sais pas si vous êtes aussi tombé sur cela, Gosson, mais ce qui est sûr, quand on voit déjà les motifs donnés, Monsieur Lamadoku, Docteur Lamadoku, nous le connaissons, il était même d'ailleurs le ministre de la Culture et du Tourisme, mais cette fois-ci, quand on nous parle alors de réserve sur la qualification académique du candidat et aussi des soupçons de fraude sur un des articles, est-ce que ce n'est pas grave, ces soupçons? Et c'est notre qui l'avait dit.
Bon, tu sais, Pascal, pour être honnête avec toi, il y a une semaine que je me suis intéressé à cette note pour aller au-delà. Et je ne suis pas revenu bredouille. Normalement, Monsieur Lamadoku pouvait s'éviter cette humiliation parce que d'après mes recherches, je le dis, je l'affirme, il avait déjà essayé l'année dernière de déposer son dossier au CAMES. Mais la DAS, ou le directeur de la DAS, s'y était farouchement opposé. Parce qu'il avait remarqué que le dossier était claudiquant, n'était pas si solide. plutôt que de se remettre en cause et de chercher à mieux étoffer le dossier avant de le représenter, il a redéposé tel quel.
Sans corriger, même
dans ce film, quand on le reproche, en fait, je pense que dans le dossier, il y a, si j'oublie, vous m'en excuserez, à part il y a le dossier académique, le dossier sur la recherche, et il y a un autre. Donc, c'est le dossier académique qui est souffreteux, parce que le diplôme qu'il a obtenu dans une école au sein de l'ENA, on ne sait pas si ce diplôme est le diplôme délivré par cette école, si ça peut lui permettre de poursuivre un master sur le campus. Donc c'est comme hein, ça ne devrait pas. Raison pour laquelle la DAS s'opposait à cela. Mais il a insisté, il a déposé. Pour le second motif, j'ai pu comprendre que, en fait, lui-même n'a pas suivi son dossier jusqu'au bout pour la publication de la recherche. C'est comme il l'aurait confié à quelqu'un et ça n'a pas été publié. On me l'a bien expliqué, mais je ne m'attendais pas à ce que tu sortes le sujet ce matin-ci. Donc, il y a une substitution.
Le plagiat?
Non, ce n'est pas le plagiat. Quand on me l'a expliqué, je l'ai compris, mais bon, je ne vais pas saouler les oreilles des auditeurs avec ça. Mais juste pour comprendre que on a substitué dans la... Il y a... c'est comme on a remplacé un article par le sien. J'essaie de le comprendre comme ça, mais plutôt que son article soit publié et que ça soit visible, que qu'on puisse y accéder.
On a publié un article de l'autre.
Voilà. Son article, on l'a remplacé dans un recueil avec un autre article. Dans ce recueil, il y avait l'article de quelqu'un d'autre, avec d'autres articles, et quand il a confié son travail, le travail, la personne a juste enlevé l'article de cette personne dans ce recueil-là et a mis celui de Lamadoku. Bref, c'est quand on l'a expliqué, j'ai bien compris, mais je me dis, est-ce qu'il faille encore tirer sur une ambulance? Voilà, parce que c'est un truc assez rude, parce que, par exemple, pour le campus, j'ai appris que pour tout dossier que l'université doit déposer pour un candidat au CAMIS, l'université paye. Ça doit tourner autour d'une million. Donc, c'est-à-dire, on pouvait faire l'économie de cette somme, mais comment il s'y est pris pour faire passer le dossier dans le circuit en ne faisant pas la vigilance des responsables? Michel doit pouvoir regretter et reconnaître que normalement, avec son niveau et avec le rang de ministre qu'il avait, il n'avait pas besoin de ça. Il n'en avait franchement pas besoin. Parce qu'au CAMES, rappelez-vous, c'est pas le Togo, le nom du Togo, ça commençait à être un peu trop cité. Donc, voilà ce que moi, je sais de la chose.
D'accord. Un ministre de la République, parce que on le connaissait, il était ministre dans l'autre gouvernement et ministre de la culture et du tourisme, et déjà quand on écoute de telles choses alors sur le ministre, ce n'est pas honorant.
Bien Pascal, le dossier, j'avoue que je l'ai lu sur les réseaux sociaux comme tout le monde. Mais qu'est-ce qu'il faut dire? Ce n'est pas la première fois que le Togo reçoit de pareils coups. Est-ce que je mens?
Non,
il y a d'autres professeurs, il y a ministres qui ont reçu ce coup, mais je ne sais pas comment ça s'est terminé. Si quelqu'un a la finalité, il peut nous le dire ici. Bon, je souhaite juste qu'on soit intellectuellement humble lorsqu'on veut poursuivre nos études, pour qu'on évite... Si c'est avéré, parce que jusque-là, bon, je ne sais pas si... Alors, si c'est avéré...
Puisque la note vient de la messe.
Nous avons fait l'université, on sait comment ça se passe, qu'on soit humble intellectuellement pour éviter de telles images hors honneur à notre pays. Ça fait, je pense, trois fois que le Togo reçoit de tels coups. Je reconnais l'intelligence de tout le monde. Je ne peux pas sous-estimer quelqu'un, non. Peut-être que c'est arrivé par imprudence. Il faudrait que les gens prennent le temps de se préparer. Vous savez, j'ai toujours l'habitude de le rappeler, et c'est notre chef de département qui nous l'a appris. Dans ce monde, il y a trois domaines dans lesquels la rigueur ne peut pas faire un demi-tour. Quand vous prenez l'université, quand il y a une décision universitaire, par exemple, on dit on a exclu un étudiant des deux universités du Togo, il peut tout faire, on ne va pas le reprendre. On dit on a exclu un étudiant des universités de la sous-région. Il peut aller n'importe où dans la sous-région, on ne va pas le reprendre. Même au sein de l'université, on a exclu de son département. Il ne peut plus rien faire. De son université, il ne peut pas aller dans un autre département de la même université. C'est la rigueur. Quand vous allez au niveau de l'armée, pour vous citer les trois domaines, quand on dit qu'on a réformé un militaire ou on a radié quelqu'un, c'est fini. Il n'y a pas aller-retour. Et enfin, c'est l'Église catholique. Vous êtes séminariste. Ah, on vous remercie, c'est fini. Vous pouvez quitter le séminaire Jean-Paul II de Lomé, aller au séminaire en Chine, quelque part où Didier connaît très bien, je ne sais pas. On ne vous reprendra pas. Donc, faisons extrêmement attention. Lorsque nous voulons rendre honneur à notre pays, en décidant de continuer nos études, faisons-le d'une façon potable. Et on sortira. On connaît des têtes, hein, au Togo, on connaît des gens. Le 4 octobre prochain, il y a des dictionnaires en médecine vétérinaire qui seront remis à l'Ordre national des médecins vétérinaires du Togo. Vous verrez que ces dictionnaires, c'est un Togolais qu'il a écrit, homologué et distribué dans le monde pour pouvoir gérer à bon escient les médicaments vétérinaires. C'est un Togolais. Donc, j'encourage tous ceux qui ont la volonté de poursuivre leurs études. Et même les journalistes qui veulent poursuivre leurs études, tantôt, on apprend qu'ils sont dans telle école privée à Lomé ici, et après, on s'en rend compte que l'établissement n'est pas homologué, les diplômes ne sont pas reconnus. Soyons fiers de ce que nous faisons. Si nous voulons améliorer notre niveau, allons dans les écoles reconnues par le CAMES, par exemple, fréquentons, et à la fin, on dira, tiens, Didier vient de faire un grand bond. Donc, ne nous débrouillons pas, parce que nous, c'est l'image du pays.
D'accord, nous, c'est l'image du pays. Alors, Didier, est-ce que vous comprenez que, oui, le Togo n'est pas épinglé pour sa première fois dans cette affaire, par CAMES, bien sûr, et souvent, c'est les autorités, hein, des gens qui sont peut-être aux affaires ou bien qui ont tellement qui ont servi le pays, soit dans le gouvernement et tout. Et est-ce que vous arrivez à comprendre quand même que ces gens-là arrivent à céder même d'ailleurs à ces postes avec ces diplômes et par après même d'ailleurs pour postuler à un doctorat au niveau du CAMES, on les épingle et on leur dit que non, ça ne peut plus aller.
Tu sais, moi, je suis, plutôt que d'évoquer le problème dans le fond, je vais l'évoquer globalement, puisque Gosson nous a déjà relaté le processus et comment nous en sommes arrivés là. Mais moi, ce que je dirais, c'est que nous devons éviter au Togo à faire la promotion des pieds nickelés. Si vous me permettez le terme.
Jolie expression.
Oui, il faut qu'on évite de faire la promotion des pieds nickelés parce que on est une république de toute façon. Et il faut que, indépendamment des origines des uns et des autres, des penchants politiques des uns et des autres, il faut qu'on s'accorde sur un élément. Et quel doit être cet élément-là? C'est la qualité et la valeur que les uns et les autres ont. Et si on mise sur la qualité, la compétence et la valeur des uns et des autres, je pense que le Togo, qu'on appelle tous de nos voeux, et que certains bon, diront dans la vision du chef de l'État, ce Togo-là, on le matérialisera. Le Togo, lors de l'humanité, ne sera pas juste un souhait des pères de l'indépendance, mais sera une réalité. Si on met ce que nous devons faire dans notre pays, c'est de travailler à ce que quand on mettra demain Uriel à un poste, que je ne doute pas de sa compétence et que je lui reconnaisse ses compétences et ce qu'il est en train de faire. Je pense que si nous faisons cette promotion-là de Togolais, indépendamment d'où il vient, de ses penchants politiques ou de ses prises de position, je pense qu'on va pouvoir développer notre pays. Qu'est-ce que ça rend, quel service ça rend au Togo de ce qu'on dise comme ministre de la République? Et alors il a soumis ce dossier-là, alors qu'il était encore ministre de la République. Imaginez un seul instant, si j'avais été chef d'État, je ne serais pas fier de cela. C'est bien dommage parce que il y a eu un sous-soupçon-là dès le départ. C'est vrai que peut-être que c'est un incompris aussi, peut-être pas sa façon de s'y prendre et de faire les choses. Le ministre Iou Ouattéba, quand il était venu aux affaires, savait qu'il avait fait le combat à une école qui délivrait un certain nombre de diplômes et de doctorats surtout, que le ministre disait que n'était pas reconnu par l'État. Et on l'avait peut-être pas compris à l'époque, par sa façon de faire, un peu, il voulait être un peu brutal. Et très vite, les gens avaient pensé qu'il faisait la chasse aux sorcières ou s'il faisait un combat à quelqu'un. Et si je ne me trompe pas, le ministre Lamadoko a eu son doctorat là-bas. Il a eu son doctorat dans cette école où les doctorats étaient... où le ministre Iou ne voulait pas accepter les doctorats. Donc, à partir de ce moment-là, il y avait déjà un souci et qu'il fallait résoudre entre eux, ministres d'abord, et entre les écoles supérieures qui dépendaient du ministère de l'Enseignement supérieur. Est-ce que cette histoire avait été réglée? Est-ce que les accréditations nécessaires ont été données? Est-ce que les diplômes ont été homologués? Est-ce qu'au final, avant d'être recruté, ces diplômes, comme je dis, ont été reconnus par l'État, homologués et tout ça, avant qu'ils ne deviennent enseignants de l'université de Lomé et qu'ils le soumettent finalement, contre des fois l'avis de ses supérieurs, ce dossier au CAMES. Donc voilà autant de questions que nous devons nous poser. Et donc, si ça arrive comme ça, les gens vont dire qu'ils n'avaient pas les compétences et peut-être et tout. Mais ce que moi je voudrais qu'on fasse, c'est que si on doit faire les choses, on les fasse dans les règles de l'art, et qu'une fois quelqu'un arrive au sommet, qu'on ne trouve pas des éléments derrière pour dire qu'il n'a pas mérité là où il est ou là où il est arrivé, mais que tout le monde puisse reconnaître que celui-là qui est arrivé au sommet est là-bas grâce à ses compétences et à ses qualifications. Et donc moi, j'insiste encore dessus parce que c'est avec cela que nous pourrons construire notre Togo que nous avons de tout nouveau.
D'accord.
Alors, il y a l'autre aspect de la chose. Nous venons d'être tous objectifs sur le dossier. Vous savez, si tel est le cas, nous parlons de l'image du pays. Pourquoi laisser ce dossier-là sur les réseaux sociaux? C'est un dossier purement universitaire. Pourquoi le foutre sur les réseaux sociaux? Alors, s'il y a des sanctions, l'université s'en charge, le CAMES s'en charge. C'est toujours l'image du pays. Maintenant, ce dossier est devenu vraiment le sujet le plus d'actualité dans le monde. On aurait pu le laisser à la gestion discrète de l'université de Lomé et du CAMES.
Mais Uriel, dans la vie, je comprends ce que tu veux dire. On a des amis et on a des ennemis. Naturellement, le ministre Lamadoko devrait comprendre qu'il n'avait pas que des amis. Il avait des ennemis, soit dans le système d'où qu'il sert ou il est issu, à l'université, là-bas, et ailleurs, il a des ennemis. Donc, c'est raison de plus, comme le disait Dawson tantôt, de pouvoir écouter les conseils avisés des responsables de la DAS et d'autres structures qui lui auraient dit arranger le dossier avant de le soumettre. Mais s'il pensait que plutôt ceux qui lui conseillaient d'arranger le dossier étaient plutôt les ennemis, voilà maintenant les vrais ennemis qui foutent la lettre du CAMES dehors sur les réseaux sociaux.
Alors,
c'est finalement le Togo, tout le Togo, notre Togo là, qui est traîné dans la boue.
Voilà,
notre
ça nous fait mal à la
touche. Justement, à cela, quand Pascal pose ces questions, il nous répond toujours, un ministre de la République, je ne comprends pas finalement,
est-ce que en proposant ou en étudiant le dossier d'un individu pour le nommer au poste de ministre de tel ou de tel, est-ce que l'autorité a la compétence de le savoir ou pas avant de nommer quelqu'un? Parce que ça aussi, est-ce que l'autorité a la compétence de découvrir que bon, celui que je vais nommer ici, son diplôme est crédible, homologué, non homologué, non crédible?
Non, peut-être des compétences, on va reconnaître au moins à l'autorité les compétences de savoir qui elle nomme. Mais maintenant, est-ce que l'autorité a le temps nécessaire de vérifier tout ce qu'on lui soumet? Voilà la question qu'on peut se poser.
Oui, tout ça reste dans la compétence.
D'accord, nous allons quitter le sujet. On termine avec cette note politique. Gosson, c'est vrai, vous êtes revenu sur les déclarations même du chef de l'État à Pékin tout récemment, au cours de FOCAC 2024. On sait qu'en marge même d'ailleurs des travaux de FOCAC, se sont déroulés même d'ailleurs du 4 au 6 septembre dernier. Il y a eu cette rencontre alors sur la bonne gouvernance où le chef de l'État a été l'invité spécial au cours de cette rencontre. Et vous titrez la une alors du journal ce matin, le journal Liberté bien sûr, à Pékin, Fogg a signé des pales d'un Togo imaginaire. Qu'en est-il alors du vrai Togo des prisonniers, des réfugiés et des assassinats politiques? Alors, c'est une question que vous posez, vous vous interrogez.
Oui, et je serai très bref et court.
D'accord.
De quoi, qu'est-ce qu'il y a derrière ces interrogations? C'est ce que vous voulez savoir.
Tout à fait, effectivement.
Donc, dès la fin de l'émission, tu prends 250. Tu vas prendre un exemple.
Non, c'est ça.
Tu as dit, le chef de l'État a parlé plus également des réformes qui sont en cours au Togo, des réformes constitutionnelles et institutionnelles. Mais vous parlez plutôt alors d'un Togo imaginaire que le chef de l'État a décrit.
Effectivement, quand on parle du Togo des prisonniers politiques et autres, ce n'est pas encore un secret. Ce n'est pas une trouvaille particulière du journal. Chacun le sait. Mais il se trouve que à l'international, quand on veut parler ou on parle du Togo, celui-là qui ne le connaît pas le prendrait pour un pays où coule le lait et le miel. Mais entre nous, Pascal, il y a des moments où, dans mes discussions, je dis à mes interlocuteurs, si, j'ai l'impression que toi, tu ne connais pas mon pays, quoi. Comment vous demandez comment moi je fais tout ce que j'écris, on ne me dérange pas. Tu penses qu'on ne me lit pas? C'est peut-être que ma chance est de n'avoir personne, je dis bien personne, comme politicien, derrière moi, que ce sont mes seules convictions. Parce que mon pays, ce n'est pas n'importe quel pays. Donc c'est dans ce sens-là que, quand on parle du Togo à l'extérieur, il faut quand même que, en interne, vous disiez ce que vous en savez. Voilà.
C'est vrai que le chef de l'État a évoqué, tel que je le disais tout de suite, il a évoqué les différentes réformes constitutionnelles et institutionnelles en cours au Togo, et au cours même d'ailleurs de cette rencontre internationale sur la bonne gouvernance. Alors finalement, vous avez l'impression que tout ce que le chef de l'État a raconté là-bas, ce n'est que le Togo imaginaire?
Non, pourquoi on va dire que c'est pour un Togo imaginaire? Godson aussi, il a été très allégorique tout à l'heure. Tu vois, il n'a pas détaillé, il n'a pas accepté de nous développer son sujet. Pourquoi un Togo imaginaire? Non, on ne peut même pas dire qu'il a raconté, il a développé. Il a présenté l'image de son pays, il a présenté les efforts en fournis depuis que plusieurs réformes ont été introduites dans ce pays. Vous savez, il y a certains aspects des efforts du gouvernement sur lesquels on ne peut pas inviter la distraction. Non. Vous savez, avant, par exemple, on parlait de la douane.
et vous arrivez quelque part, on dit que ici c'est service des impôts. Vous savez comment ça s'est passé. Mais aujourd'hui, personne ne peut nier l'apport grandiose, si vous voulez, de notaire. Notaire n'existait pas. On ne peut que donner ces exemples-là pour convaincre celui qui ne connaît pas le Togo. Il a fallu instaurer une institution de la sorte pour pouvoir rentabiliser et pour pouvoir faire vivre le pays. Il n'y a pas que ça. Il y a beaucoup, beaucoup de réformes. Et c'est ça qui donne même l'élan, le courage et la volonté au chef de l'État d'aller exposer notre pays. Ça, il y a rien à faire. Ce n'est pas dans ce sens. On ne peut pas parler du Togo imaginaire. Mais quand même, mais au regard de ces réformes, tout ce qu'on peut souhaiter, c'est que tout ce que nous essayons d'énumérer comme insuffisance, comme défi restant à relever et tout ça, que l'autorité puisse les prendre en compte. On vient de parler de l'éducation. Chaque jour, on parle de la santé. Comment faire pour que... Vous voyez, ces derniers temps, les gens commencent par faire confiance à nos hôpitaux. Et je ne vais pas aller dans les détails parce que la plupart, bon, et entre guillemets, de ce qu'on sait, tout le monde est resté dans les hôpitaux du Togo. Ça veut dire qu'on commence par faire confiance à nos hôpitaux. Donc, qu'ils prennent en compte nos observations pour améliorer. Sinon, on ne peut jamais parler d'un Togo imaginaire.
D'accord. Disais, est-ce que oui, mais il y a des efforts qui sont faits, mais là aussi, c'est parce qu'il y a aussi des défis à relever. C'est quand le journal parlait alors de Togo imaginaire.
Non, vous savez, tu connais mes positions sur un certain nombre de sujets. Nous sommes un pays qui tente de s'ouvrir à beaucoup de choses, à des évolutions, au développement, à la démocratie, à la bonne gouvernance. Et le chef de l'État a souligné des efforts qui ont été faits ces dernières années. Et ces efforts sont reconnus et sont louables. Et ça, on ne va pas les nier, comme le dit Uriel, il y a beaucoup d'efforts qui sont faits. En 2005, il y a des choses qui ne sont pas possibles au Togo. Il y a encore quelques années, certaines choses sont très compliquées à faire. Mais aujourd'hui, Dieu merci, on peut les faire. Mais c'est que quand nous embrassons le processus de démocratisation, comme Gosten a tenté de le souligner, c'est qu'il y a un certain nombre de choses, quand on va les évoquer, et quand vous parlez de réforme et d'évolution, quand on va les évoquer, ça va contrarier et ça va contraster avec ce que vous évoquez. Et donc je pense qu'on pourrait en interne revenir rapidement à nous entendre sur la nouvelle réforme constitutionnelle qui est toujours rejetée par une partie. C'est dans l'ordre normal des choses, on peut continuer le dialogue sur ce sujet. La question des prisonniers politiques, ne pas non plus fuir le sujet, faire la politique de l'Autriche. Il y a quand même des hommes politiques, des Togolais qui sont en prison dans le cadre de leur action politique. On peut naturellement évoquer ces sujets-là, si c'est possible, les libérer, relaxer, pour que naturellement tout ce que le chef de l'État évoque ne soit pas un peu en contradiction avec nos réalités en interne, comme a tenté de le souligner Godson. Donc il y a quand même des défis, et nous les reconnaissons en tant que Togolais, que ça reste des défis que nous devons relever pour que le Togo de paix, le Togo réconcilié avec lui-même, le Togo de démocratie, ou le Togo qui est sur la voie de la démocratisation, soit ce Togo-là dans les années, dans les mois, dans les années à venir, et ça c'est normal. Donc il y a des réformes qu'on salue. On a même cette réforme constitutionnelle. Le chef de l'État a dit que c'est en cours. Donc si c'est en cours, ça veut dire qu'il peut avoir encore des retouches. Et donc on ne sait même pas encore quel visage la 5e République aura. On tente de mettre en place les institutions. En 2025, on verra ce que ça sera, mais ce n'est toujours pas fini. Donc on est en cours de transformation, de démocratisation. On est en cours d'ouverture avec quelques personnes qu'on a mis dans le gouvernement. Donc vous savez... Et donc, espérons que ça continue dans cette dynamique et qu'il n'y ait pas de prisonniers politiques, que les droits de l'homme soient respectés, les droits de manifestation, de meeting, des organisations de la société civile et tous, soient reconnus et soient garantis pour les uns les autres, pour un Togo qui avance. D'accord, on va tous saluer.
D'accord, puisque tout ce que vous venez de citer participe aussi à la vitalité même d'ailleurs de la démocratie
et de la bonne gouvernance.
Et de la bonne gouvernance, bien sûr. Merci beaucoup, chers confrères. Nous allons en arrêter là. Et donner aussi la parole à nos auditeurs qui s'impatientent à rentrer en ligne pour participer à ce débat avec nous. Et c'est sur nos deux numéros 90 86 35 35 91 36 63 75. Mais bien avant, nous faisons un clin d'œil à nos annonceurs. 93.5 Canal FM. Nous sommes de retour dans cette émission Club de la Presse. Maintenant, nous nous ouvrons à vous. Vous pouvez nous appeler au 90 86 35 35 91 36 63 75. Allô?
Oui.
Allô? Oui, bonjour.
Oui, bonjour. Oui, c'est Pélé.
Oui, Pélé, comment vous allez?
Oui, très bien.
D'accord, allez-y.
Je salue le plateau.
Le plateau aussi vous salue.
Donc, le Congo est un pays imaginaire. Avec le chef de l'État depuis la Chine. Bon, je pense que seul le chef de l'État.
Pélé.
Oui.
Ce n'est pas ce que le chef de l'État dit, hein? Non, mais c'est, nous avons lu plutôt le titre d'un journal ici.
Ah bon.
C'est le journal Liberté.
Donc, je pense que si nous prenons même le journal Liberté, maintenant que le pays est un pays imaginaire, on peut l'interpréter
que oui, dans le bon sens. Bon, il semble qu'on ne se comprend pas. Parce que, en fait, le journal parlait plutôt alors de la description, de tout ce que le chef de l'État a dit, le développement du chef de l'État là, il parlait alors d'un Togo imaginaire.
Oui, c'est pas ce que je dis. C'est bon, un peu, ça veut dire que le Togo est un Togo imaginaire.
Non, je pense que non, ce n'est pas ça. Vous êtes en train de faire plutôt une autre comparaison de la chose, mais allez-y. 90, oui, bonjour.
Bonjour, mon cher ami Pascal.
Oui, comment vous allez?
Pascal Graff.
D'accord, c'est Patrick. C'est Patrick?
Exactement, c'est Patrick.
Voilà, Patrick, allez-y.
Depuis la semaine dernière, là, je tentais de rentrer en ligne, mais c'était un peu compliqué. Quand vous avez reçu l'inspecteur de l'éducation, là, et en tout cas aussi le ministre de l'enseignement, là.
Ok.
Il a quand même leur dit quelque chose. Hein. Actuellement, ce que nous rencontrons dans nos établissements scolaires, que ce soit privé ou public, là, en fait, le problème n'est pas loin. Hein. Je vais parler de problèmes, genre de drogue, de délinquance juvénile, tout ça, là, au niveau des écoles, là. Le problème n'est pas loin. C'est à côté de nous-mêmes. Et c'est quoi? Vous savez, nous tous, vous et moi, et le ministre même, on a tous fréquenté. L'école que le ministre a fréquentée, je l'ai fréquentée aussi, sous JP. Le ministre était devant nous, on était derrière. Mais vous savez, quand dans une école, on dit qu'il va falloir qu'on arrête le bâton, nous voulons que l'école là aille où? Le bâton là, vous savez, combien de fois le bâton corrige l'éducation de nos jeunes, mais tout c'est ce que je dis. On se comporte comme si on n'a pas traversé cette jeunesse-là. On se comporte comme si on n'a pas été à l'école nous autres. Comment on peut dire qu'on va arrêter de frapper? Et voilà les conséquences. Vous savez, pourquoi les gens ont peur d'aller en prison? Parce que ce que fait ces investigations-là, vous les journalistes, vous en parlez là-bas. Pourquoi tout le monde a peur d'y aller? C'est à cause de ces gens, à cause des punitions infligées dans ces rues-là que tout le monde craigne. Les rues-là, quand vous arrêtez de frapper, on n'a pas dit de taper les enfants jusqu'à les blesser. Non! Mais il faut quand même corriger les enfants avec le bâton. Vous allez voir les histoires de drogue, tout ça va s'arrêter. Si vous allez sur l'air, moi je me rappelle, c'est le lieu de moi, particulièrement moi sur l'air, M. Boudoura, c'est là l'écoute. Même le ministre dont je parlais là, demandez-lui, ici il doit connaître le directeur de l'EPCUP et de Bédine, Kofi Awolpe. Il le connaît très bien. Quand monsieur là, il tapait, il nous corrigeait. Si vous corrigez, voilà là où nous sommes aujourd'hui. Ça, je ne serai pas sûr qu'on serait là où nous sommes aujourd'hui. Il faut le bâton. Merci.
D'accord. Merci beaucoup, Patrick, pour votre intervention. Je relis rapidement le titre du journal Liberté à Pélé. À Pékin, Fogna Sibé parle d'un Togo imaginaire. Qu'en est-il alors du vrai Togo des prisonniers, des réfugiés et des assassinats politiques? C'est une interrogation du journal. Allô?
Allô?
Oui, bonjour.
Bonjour, mon directeur,
Papa Sibiti, comment vous allez?
Ça va.
D'accord,
excusez-moi, sur qui toi est tombé la porte de Saint-Mesla. Deuxièmement, ce que je voudrais dire, il n'y a aucune institution sans punition. Je remercie celui qui vient de partir. Vous avez vu, les États, si quelqu'un est défaillant, même les chefs d'État, vous avez vu ce qui se passe après. Il ne peut avoir une institution sans punition que le ministre, le président de la République, l'école, le citoyen a formé par l'État. Le ministre, tout ça, là, pour nous dire quel genre de situation citoyen a veut former. Pas de choses. Il faut punir. Ces enfants qui ont appris à gambader, il faut les ramener au bercail.
Merci beaucoup, Papa Sibiti, pour votre intervention. Je pense que vous avez été largement compris. Allô? Allô, bonjour. Allô?
Allô?
Oui, bonjour.
Allô?
Oui, bonjour. Décidément, il n'a pas de retour. Allô? Allô, bonjour.
Allô?
Oui, bonjour.
Bonjour.
C'est Armand.
C'est Armand, oui.
Voilà, Armand, allez-y.
Bonjour, le plateau.
Bonjour.
Il faut dire que, bon, liberté, on sait très bien que cette presse, elle relève beaucoup de choses, mais pas très vérifiables. Nous le savons, parce que dire que le Togo, bon, c'est comme nous sommes dans un monde imaginaire. Un monde imaginaire, c'est un monde d'esprit, comme on peut le dire. Mais nous voyons très bien les efforts que le gouvernement mène dans plusieurs domaines. Je ne dirai pas, la perfection n'est pas de ce monde. Ça, il faut qu'on le reconnaisse. Et aujourd'hui, nous savons très bien, sur le plan international, tout ce qui se passe. Mais les autorités font des efforts. Ça, il faut le dire. Et de temps à autre, on envoie les émissaires dans le pays profond et nous avons les échos. Donc, dire vraiment que non, là, moi, je dis que, bon, nous sommes aussi sur une scène politique et nous savons que c'est. Aussi, pour dire que, concernant l'école qui vient de commencer, comme l'ont dit certains, il va falloir qu'on change un tant soit peu de méthode. Comment on peut récompenser des élèves et au même moment on dit que non, on ne peut pas les sanctionner. Et la sanction que nous connaissons, qui aille bien avec un élève, c'est le bâton. On ne dit pas de bastonner les élèves, mais on dit de les punir à deux, trois cours, bon, bien assainis. Vous allez voir que les classes, et on l'a fait, nous aussi, nous sommes passés par là. Donc aujourd'hui, moi je dis, je suis pour, j'ai un enfant, mais je suis pour qu'on puisse un temps soit peu punir les enfants quand vraiment l'enfant n'est pas dans les rangs. Merci.
Merci beaucoup Armand pour votre intervention. 90 86 35 35. Allô?
Allô?
Oui, bonjour.
Bonjour, monsieur Pascal.
Votre nom c'est?
Cossi de Sabado.
C'est monsieur Cossi de Sabado, allez-y.
Oui, je salue le plateau.
Le plateau aussi, vous saluez.
Je vous salue aussi.
Merci.
Bonne rentrée à vos enfants.
Merci beaucoup.
Merci. Bon, je voudrais vous rebondir par rapport au sujet de la rentrée scolaire.
Voilà.
Je voudrais dire ceci. L'autre fois, je suivais un journal, RFI, et le journaliste disait que c'est comme ça, un enseignant était en train de battre un enfant de 3 ans. 3 ans. Et là, l'éducation française s'est vraiment indignée. Vous voyez, nous ne pouvons pas dire que la façon dont nous avons été éduqués à l'école, faut que ça revienne. Quand les choses sont en train de changer au niveau de nos écoles en Afrique, c'est par rapport à ça. Est-ce qu'on peut imaginer que dans le pays des Blancs, ça peut se passer, et le temps de 3 ans, et voilà, maternelle. L'enseignant était en train de la battre. Ils ont fait pleurer. Donc, ce que nous pouvons dire, c'est que le ministre Kokoroko, ou bien le chargé de l'éducation, prenne la mesure de renvoyer les enfants. des enfants qui ne sont pas être disciplinés là depuis la maison avant d'arriver à l'école. On leur renvoie à leurs parents. Ils n'ont qu'à aller rester à la maison. C'est parce qu'ils viennent contaminer nos enfants à l'école. Moi, mes enfants, je ne mérite pas les bas. Non. Mes enfants, bah, je les éduque depuis la maison. Tout le monde n'a qu'à éduquer son enfant. Quand tu arrives à l'école, tu es venu à l'école pour travailler, pour apprendre, pour suivre l'enseignant. Si un élève ne peut pas suivre l'enseignant, il faut faire quelque chose. Non, quand il envoie à la maison, il n'a qu'à aller rester avec ses parents. Merci.
Merci beaucoup, M. Kossi, pour votre intervention. 90, 86, 35, 35, 91, 36, 63, 75. Allô?
Allô?
Oui, bonjour.
Bonjour, c'est M. Komlavi.
Pardon?
M. Komlavi.
M. Komlavi, vous vous appelez d'où?
Bagoué.
Bagoué, allez-y.
Oui, je voulais tous intervenir par rapport à un nouveau confrère qui parlait de Togo imaginaire. Je pense qu'il faut au moins faire un effort de vigilance au moment. Comme nous utilisons sur les chaînes, les qui nous écoutent au Togo, il y a des efforts qui se font. Et même s'il y a des choses à corriger, ce que le chef d'État a dit, est-ce qu'on peut dire qu'il n'y a rien de vérifiable dans ce que le chef d'État a expliqué dans son exposé? Non. Il faut qu'on soit un peu patriote et qu'on dise la vérité, ce qui ne veut pas qu'on le dise, mais qu'on, lorsqu'on taxe un tout comme un État imaginaire, je pense que le chef d'État a dit des choses qui sont réelles. Il y a des insuffisances dans le palais qu'on puisse les relever, mais il est tout comme ça, c'est nous, notre gouvernement, ça nous blesse et ce n'est pas une bonne chose. On voit des choses se faire, s'améliorer, mais s'il y a des choses encore à inciter à faire, ce n'est pas de telle manière qu'il faut parler. Je voulais toujours dire merci.
D'accord, merci beaucoup, M. Komlavi, pour votre intervention. Nous allons recevoir notre dernier auditeur pour la honte de cette émission. Allô?
Allô?
Oui, bonjour. Allô, bonjour.
Allô?
Oui, bonjour. Allô? Décidément, il n'a pas de retour. Allô? Allô, bonjour?
Allô?
Oui, bonjour, papa Sibiti.
Je suis revenu.
Oui.
Vous avez vu une dictature qui corrige la discipline. Mon neveu est à côté de moi. Il dit que, mais, ils ont reçu à cause de la rigueur du proviseur, c'est à son amignon. Hein? Vous voyez, le général de la tête, il disait, la récréation est terminée. Vous avez nos enfants là aujourd'hui. Voyez la pagaille. Et vous, vous avez été éduqué comment? Celui qui ne veut pas qu'on ne dise son enfant, on fait, il n'a qu'à retourner à la maison. Merci beaucoup.
Merci, papa Sibiti. Je pense que vous êtes le dernier auditeur pour les interventions au niveau des éditeurs ce matin pour le compte alors de cette émission lors de la presse. Nous revenons en plateau chez confrères pour faire un dernier tour de table et clôturer l'émission. Gosson, vous avez écouté les uns les autres votre réaction?
Oui. Il y a, je crois, deux auditeurs qui ont interpellé le journal sur le titre.
Et
C'est de bonne guerre. Quand c'est l'un pas des efforts que les autorités font, et s'ils estiment qu'il va s'asseoir sur ces efforts et ne pas tenir la dragée haute pour que ces efforts soient multipliés ou alors continuent, libre à lui. Mais à côté, si par exemple il faisait partie d'une famille qui aurait été victime d'une forme de mauvaise gouvernance, il mourrait le titre du journal. Pour ceux-là qui disent qu'il faut savoir mesurer les mots, il doit juste comprendre qu'il y a une institution qui régule les médias.
Les médias.
Donc s'il y a écart, ce n'est pas à lui, l'auditeur, de nous redresser, mais nous avons un organe qui régule la presse.
Et il faut dire que vous avez votre style, hein, votre style de critique, bien sûr.
Voilà.
Vous pouvez parler alors du journal Liberté.
Oui, voilà. Oui. Vous savez, c'est aberrant, hein, c'est très aberrant. J'ai suivi trois auditeurs, franchement, je ne pouvais pas imaginer qu'à cette heure, des gens puissent continuer par faire la promotion de l'utilisation du bâton à l'école. Il y a Patrick, il y a Kossi, il y a papa Sibiti, mais qui font la promotion de l'utilisation du bâton à l'école. Je vous assure que le législateur a bien étudié la situation avant de prendre la décision. L'autorité ne s'est pas réveillée un matin pour dire aujourd'hui, on arrête l'utilisation du bâton.
Vous savez, quand on utilise le bâton, il y a des enfants, par exemple, dans ta famille, on ne connaît pas la violence. L'utilisation du bâton est une forme de violence. Vous voulez éduquer les enfants par la violence, ils vont grandir dans la violence et ils vont transmettre la violence. Si vous voulez utiliser le bâton pour vos enfants, vous n'avez pas besoin qu'on le fasse à l'école. Recrutez des gens pour faire correctement vos enfants à la maison. Là, ça vous engage. Mais à l'école, appeler à l'utilisation du bâton à l'école, c'est retourner dans les autres périodes. Ça, c'est grave. Il faut que les gens arrêtent de chercher à se défendre pour dire, bon, ceux qui parlent là, ils ont été formés comment ? Moi, je n'ai pas été formé par le patron. Ce n'est pas le patron qui a amené Pascal Lessou, Didier ou Godson ici. Hein. C'est parce que vous avez la volonté de surpasser, surmonter les difficultés pour être ici. Il faut arrêter ça. Ça veut dire que cela, à la maison, j'imagine comment ils traitent les enfants et au-delà des enfants, les épouses et les époux. Le patron, c'est quelque chose de violent. C'est, vous ne pouvez pas dire qu'on n'a qu'à exploiter, utiliser le bâton sur un être humain comme si c'est le phénomène que nous vivons. On peut mettre fin à ça. Hein. L'existence des stupéfiants au niveau des élèves, l'usage de quoi, tout ça là. On peut mettre fin. Quelqu'un l'a dit, quelqu'un a recadré. Je pense.
C'est Kossi, vous l'avez dit ?
Non, c'est pas. Je pense. Oui, c'est M. Kossi qui a recadré, effectivement.
Le Sabado.
Mais il faut éduquer les enfants à la maison, les accompagner à l'école. Mais dire que c'est le bâton, non, ça c'est. On utilise le bâton pour l'âme,
d'accord.
Pour les autres animaux.
Ok, merci.
On va utiliser ça pour les élèves.
Merci beaucoup, Yel. Votre note de fin d'émission, c'est.
Oh, Godson n'a pas donné sa note.
Mais d'accord, puisque je veux revenir à.
Ok, d'accord. Je n'ai pas de note, mais j'encourage la police qui nous aide sur la route. Franchement, je les encourage à continuer leur métier. Et surtout. À sanctionner durement ceux qui violent les feux tricolores.
Voilà, surtout que ces feux tricolores pratiquement hein, qui ne fonctionnent plus en tant que tels, je pense que ça devient tellement dur hein, pour c'est notre sujet, ce qui concerne le travail de ces policiers. Alors, oui, disons.
Oui, moi, je n'ai pas d'autre chose à dire. Quelqu'un a dit, un auditeur a dit qu'il faut qu'on. On reconnaît qu'il y a des choses à corriger, il faut qu'on les corrige. Dans tout ce que nous avons dit, on a parlé d'éducation, on a parlé de voilà, du supérieur, nous avons parlé de la bonne gouvernance, de la politique et tout. Donc l'essentiel, c'est que la conclusion, moi, de mes interventions, c'est qu'on puisse travailler chacun à son niveau et au niveau des autorités également, à faire améliorer notre pays,
d'accord.
Pour que demain, justement, les violents ne soient pas dans le système. Pour que les gens ont tellement été traumatisés par le bâton qu'eux pensent qu'on ne peut que réussir par le bâton. Moi, j'ai eu un papa qui était vraiment le bâton. J'ai eu des enseignants qui étaient vraiment violents. Mais ce n'est pas des choses qui aident à avancer.
D'accord.
Il y a d'autres manières.
Ok, de merci. Votre note de fin d'émission ?
Je n'en ai pas.
D'accord. Et Gosson, votre note ?
C'est au ministre de la transhumance. Il essaie de.
Et je Rayac, dans oui. La note, c'est combien déjà ?
7/10.
Voilà. D'accord. Merci beaucoup, Gosson, qui est témoignant d'être passé dans cette émission. Merci à toi d'être passé dans cette émission. Didier Assogba, merci d'être venu au Club de la Presse de ce lundi. Merci à tous qui nous avez suivis, puisque nous sommes à la fin de cette émission. Merci à Michel Tomega qui a assuré la mise en onde. La mise en ligne a été assurée par Jérôme Dakoutia. Je suis Pascal Lossou. Je vous retrouve demain mardi à partir de 11h pour d'autres points, justement, de cette émission Club de la Presse. Au revoir.